L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzala.
L'émission
de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes.
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Bonsoir.
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 Du monde ce soir sur l'antenne nomade de Zabzala.
La section lilloise, la section sévenole s'est réunie pour vous présenter l'émission spéciale piraterie.
Pour ça, on naviguera du côté du golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes.
Histoire de comprendre ce qui se passe côté pirate, mais aussi pourquoi toutes les grandes armées du monde ont déployé leurs navires de guerre dans cette région.
On vous a concocté un interview des auteurs du bouquin Frères de la Côte, qui nous font un point sur la situation des pirates incarcérés en France et des dispositifs anti-piraterie.
Ce livre, Frères de la Côte, a été édité par l'Insomniac. Vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque occupée L'Insoumise, au 10 rue d'Arras, à Lille.
Ainsi qu'au Mot du siècle, à Ganges.
Quand vous êtes un pauvre Somali, vous voyez, ils ont attaqué parfois des tankers saoudiens. C'est littéralement un coffre-fort flottant qui passe sous leurs yeux.
Augmentation des durées de détention, augmentation des rançons, augmentation du nombre d'attaques.
Entre 7 et 12 billions de dollars par an, c'est le coût mondial de la piraterie dans cette région.
Les armateurs... On reçoit des offres tous les jours de propositions de protection. On ne sait pas qui c'est.
Il y a effectivement un véritable business, oui, c'est vrai. Il y a effectivement un véritable business, oui, c'est vrai.
Là, vous êtes venu à l'Insoumise présenter Frères de la Côte.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce livre?
Tu peux parler.
Oui, c'est vrai, je peux parler. C'est parti d'un article de journal, en fait, de 2009. C'est parti d'un témoignage d'un mec qui était en tôle, qui dit qu'il a croisé des pirates somaliens.
Ah oui, d'accord. Je pensais que
dans sa tôle à Fleury. Et du coup, de se dire, mais merde, qu'est-ce que des pirates somaliens foutent ici en tôle en France, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, se renseigner un petit peu plus et de voir qu'il y a des procès, donc on va au procès.
Et du coup, en plus, du coup, au procès en 2012, fin 2011 plutôt. Et après, il y a eu l'idée de faire une discussion publique sur, qui était plus large, qui était portée sur la piraterie d'hier et d'aujourd'hui. Et durant cette discussion, après cette discussion plutôt qui s'est très bien passée à Paris, il y a un éditeur qui nous a proposé d'écrire un ouvrage sur les pirates somaliens, plus précisément. Et donc on a accepté, et en même temps il y avait les procès qui avaient lieu à Paris, le procès du Ponant, et on y est allé.
Quand on dit Ponant, Carédas, on va dire beaucoup ces mots-là, c'est les noms de bateaux. Ouais. Et donc, du coup, c'est les noms des procès. Des bateaux qui ont été pris en otage par donc, des Somaliens, qu'on appelle donc, les pirates. Et après les procès, on a coutume de les appeler par les noms des bateaux qui ont été pris en otage. Et en fait, il y a, en France, il y a eu 22 Somaliens qui étaient en tôle. Là, il y en a qui sont sortis depuis, hein, mais donc en tout, il y en a eu 22. Et ça correspond à 4 attaques de bateaux. Un bateau, le premier, qui s'appelle le Carédas, qui était un bateau de plaisance avec un couple de personnes âgées à bord. Après, il y a eu un bateau qui s'appelle le Ponant, un immense voilier de croisière pour les gens très riches. Et donc, le procès a eu lieu aussi. Troisième bateau, le Tanit, dont le procès vient d'avoir lieu à Rennes, qui était aussi un bateau de plaisance avec à bord 4 adultes et un enfant. Et un quatrième bateau qui s'appelle le Tribal 4, dont le procès n'a pas encore eu lieu. Et en fait, c'est tous les gens qui ont été capturés par l'armée française à bord de ces bateaux, qui ont été ramenés en France. C'est eux qui constituent les 22 pirates somaliens en tôle, et c'est eux qui passent à chaque fois en procès. Donc sur ces 4 bateaux, il y en a 3 pour lesquels les procès ont déjà eu lieu, et un pour lequel ça va avoir lieu d'ici 1 an et demi, 2 ans.
Et on a commencé à travailler sur le bouquin en faisant des recherches, et les sources qu'on a trouvées, elles étaient très faibles. Enfin, c'était surtout Internet et très peu d'ouvrages. Moi, j'avais un ouvrage anglophone qui ne m'a pas trop servi, et sinon, il y avait très peu de livres. Et les sources Internet, elles étaient surtout militaires, et, ou alors des magazines de géostratégie ou de géopolitique, sur lesquels on a trouvé plein de choses. Et on a bossé avec ça. Et plus un copain somalien, du coup, qui a pu nous aider et vérifier les sources qu'on avait trouvées. Ah oui, et oui, il y a les gens qui sont sortis de prison, on en a rencontré quelques-uns.
Les avocats.
Dont les avocats qui étaient plutôt bien, et aussi il y a dans le livre un témoignage d'une des personnes qu'on a rencontrées.
On peut rappeler peut-être le contexte somalien rapidement, brièvement, parce que tout est dans le livre. Il y a d'abord la place de la Somalie, la place géostratégique un peu où le pays est situé, c'est à l'entrée du golfe d'Aden. Donc c'est à peu près une cinquantaine de grands tankers qui passent tous les jours au large des côtes.
C'est quoi ?
Tankers, c'est les gros bateaux réservoirs ou alors vraquiers avec marchandises en vrac. Ou les tankers, c'est ça, à la fois des porte-containers, mais c'est aussi pétroliers, bateaux de gaz, etc. Donc c'est toutes les richesses du monde, parce que ça représente plus de la moitié du flux maritime mondial au large de ces côtes, qui passent au large de ce pays, ravagé par un certain nombre de à la fois de situations naturelles, climatiques et autres, par une succession de périodes de sécheresse, de famine, etc. Et puis de guerre après la chute de Siad Barré en 91, après des années donc d'un régime autoritaire assez fort en 91, c'est le début de la guerre d'une multitude de clans. Donc un contexte assez complexe, avec de la misère à l'intérieur des terres et puis sur les côtes, liée donc à la fois à des situations internes et à des situations externes, comme dans les années 80, à partir des années 80. Le fait que des pays étrangers, de grosses compagnies, déversent des déchets toxiques, des fuites de déchets toxiques au large du pays. Ces fuites toxiques sont apparues sur les côtes. Ça a été un peu l'explication d'un certain nombre de maladies mystérieuses. En 2004, lors du tsunami, le tsunami qui a vécu les côtes africaines, a eu exactement la même ampleur que ce qu'a vécu les côtes thaïlandaises. C'est-à-dire que la mer s'est entièrement retirée et est arrivée à toute vitesse en détruisant la côte, bateaux de pêche y compris, et a permis de faire apparaître sur les plages ces fameux fûts toxiques. Fûts de déchets radioactifs ou autres, largués par des intérêts italiens, espagnols, autres, européens, voyant évidemment des économies en termes de coûts de retraitement de ces déchets. Voilà. Donc, d'une part, des déchets toxiques polluant les côtes.
Donc, à la place de retraiter les déchets,
On les déverse au large, on se sert du large somalien comme une vaste poubelle à déchets. Donc tout était déjà énormément toxique et les poissons commençaient aussi à disparaître sur ces années-là. Et puis ce qui a rajouté aussi à la disparition du poisson au large des côtes, c'est la pêche à outrance. Les bateaux européens qui ont ratissé un peu plus, qui ont employé des moyens illégaux au large des côtes européennes, et puis c'était l'occasion d'aller ratisser du poisson, puisqu'il n'y a plus énormément de poissons au large des côtes européennes, d'aller faire ça au large de la Somalie, des compagnies comme Sopiqué, pour ne pas les citer, des compagnies françaises ou autres, avec toujours une main-d'œuvre à faible coût, des possibilités de retraiter le poisson sur place, et donc énormément de bateaux de pêche européens ou asiatiques ou autres de tout pays se retrouvaient aussi dans les eaux territoriales aussi somaliennes. Et donc la piraterie est née sur ce terreau-là, à la fois une population somalienne en difficulté à l'intérieur des terres, des éleveurs pouvant plus pratiquer l'élevage pour plusieurs raisons qu'on détaille un peu dans le livre, des pêcheurs en situation d'inactivité, des périodes de pêche aussi climatiques aussi défavorables, et donc tout le monde se retrouve, une espèce d'alliance se sont retrouvés pour commencer à lutter contre les bateaux qui déversent des déchets toxiques, lutter contre les bateaux de pêche. Donc dans les années 90, c'est le début de la piraterie, de l'attaque de ces bateaux, et ils se donnent comme titre volontaires des côtes somaliennes, garde des côtes somaliennes, etc., et ils s'attaquent en priorité d'abord à ces premiers bateaux. Et puis, de fil en aiguille, la piraterie prend un peu plus d'ampleur. Ils s'attaquent à des gros tankers, à des gros navires. Ils s'attaquent à des navires du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, sachant que ce n'est pas la cargaison qui les intéresse, mais l'équipage qu'il s'agit de monnayer. Donc voilà. Et ils vont de plus en plus loin, avec des bateaux à raisonner qui servent de bateaux mer, de bateaux escales, qui permettent d'aller de plus en plus loin, parce que les skiffs qui partent des côtes somaliennes, dans les années 2008-2009, on compte à peu près 200 à 300 morts disparus, qui ne sont jamais revenus. Les skiffs, c'est des petits bateaux rapides qui peuvent partir des côtes, mais qui ne peuvent pas aller très très loin.
Donc l'idée par les
pêcheurs. Et donc cette idée de bateau-mer, ce sont des bateaux escales, des espèces de pontons amarrés au large avec des réserves d'essence ou de ravitaillement en nourriture qui permettent d'aller un peu plus loin, de s'attaquer un peu plus loin aux Seychelles ou à Maurice ou sur des bateaux de tourisme. Il faut dire que le commerce maritime mondial a continué d'emprunter ce trajet, ce parcours, parce que de toute façon, il est hors de question. Enfin, ils avaient calculé, ils avaient pensé peut-être de revenir à l'ancienne route maritime qui contourne toute l'Afrique, mais en termes de coûts, il était hors de question de faire ça, et en termes de coûts aussi, ce qu'entraînait la piraterie, malgré les demandes de rançon, il y avait aussi, par rapport au coût des marchandises, par rapport à la réduction des coûts d'effectifs sur les bateaux, et puis à tous ceux qui ont fait leur beurre sur la piraterie, cabinets d'assurance, armateurs, marchands d'armes non létales, boîtes de sécurité privée, etc. Enfin, un certain nombre d'armateurs s'y sont toujours retrouvés et donc ont toujours emprunté ces mers. Mais du fait de l'ampleur du phénomène, les armées de différents pays se sont alliées, coalisées et essayaient d'organiser une répression militaire assez sérieuse au large de la Somalie.
L'armée française mène une opération anti-pirate réussie au large du Kenya.
Oui, alors que les actes de piraterie se multiplient en ce moment, notamment dans le golfe d'Aden, une frégate française a pu intercepter 11 hommes ce matin à l'est de Mombasa, Pierre-Julien.
Oui, hier soir, la frégate Nivos, qui venait juste de rejoindre la force européenne Atalanta dans l'océan Indien, bien sûr, a reçu un appel de détresse d'un porte-conteneur battant pavillon du Liberia. Des pirates étaient en train de l'attaquer. Le commandant du navire français a fait aussitôt décoller son hélicoptère, un Panther, qui a mis en échec les pirates. pirates. Ensuite, la frégate les a pistés. Ce matin, à 900 km de la côte kenyane, l'opération a été lancée. Le capitaine de frégate Jean-Marc Le Kilek, le pacha du Nivose.
Les efforts ont été concentrés sur le bateau mère. Simultanément, l'hélicoptère à Panthère est arrivé sur une barque à pont ouvert, fait 10 mètres de long, avec un moteur diesel inboard qui sert de soutien avec 17 fûts de carburant à bord, des vivres, permet aux petites embarcations des skiffs rapides avec des moteurs hors bord de mener leurs attaques et de venir se ravitailler sur ce bateau mère. Nous avons également deux Hurricanes qui sont des embarcations rapides qui se sont placées de part et d'autre et le niveau s'est arrivé peu de temps après, ce qui fait que face à ce déploiement de force rapide, les 5 personnes qui étaient à bord se sont mises debout et se sont rendues en levant les mains immédiatement.
Voilà, et 6 autres pirates qui avaient essayé de fuir à bord des deux petits canots à moteur ont été eux aussi obligés de se rendre au fusilier commando. Ils sont actuellement retenus à bord du Nivose. Depuis avril 2008, l'affaire du Ponant, donc 71 bandits des mers ont été interpellés et 3 autres tués par les forces françaises.
Donc à la fois répression militaire et puis répression judiciaire. Voilà, tout à l'heure on parlait des procès, il y a à peu près 1000 dans le monde, 1000 pirates qui ont été arrêtés et jugés à l'étranger dans des pays européens, États-Unis ou autres.
En attente de jugement.
Oui, ou en attente de jugement pour ça.
Ou en attente de jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 22 concernés, il y en a...
En France.
En France, 22, qui sont 14 qui sont soit en taule, soit en instruction. Puisqu'en France, tu as parlé du Ponant, du Carédas.
Du Tanit.
De la Tanit.
Donc rapidement, la répression militaire, elle se met en place à partir de 2008. Parce que, comme dit mon voisin, la piraterie, elle débute à partir des années 90 et en fait, elle se développe énormément, surtout à partir du début des années 2000. Et donc, il y a une réaction internationale qui ne tarde pas à venir à partir de 2006, environ 2007. Ils décident de se réunir parce que même si on sait que les actes de piraterie sont assez dérisoires par rapport au flux du commerce maritime, eh bien, ça gêne quand même grandement, ça gêne un peu le commerce et le flux et le transit, tout ça. Et du coup, le Conseil de l'ONU se réunit plusieurs fois et il décide d'envoyer des dizaines de milliers de militaires de différents pays dans la région, se basant à Djibouti et au Bahreïn. Et en plus de cela, parallèlement, en 2008, ils mettent en place différentes résolutions qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus larges. Donc, par exemple, un envoi de forces armées dans les eaux internationales pour un délai de 6 mois. Ensuite, ils autorisent les armées, la marine plutôt, à entrer sur les eaux territoriales somaliennes. Ils élargissent ensuite... ils autorisent ensuite les armées pendant une mission à aller sur le territoire somalien, en plus de la mer. Et en 2012, carrément, ils proposent c'est ce qui s'est passé pour le Ponant, par exemple, c'est un bon exemple, même si c'était illégal, mais ils autorisent les armées à intervenir sur le sol somalien, indépendamment de toute intervention en mer. Il y a la mission Atalante, c'est l'Union européenne qui l'a organisée, qui est chargée spécifiquement de la lutte anti-piraterie. Ils ont la même chose, l'équivalent aux États-Unis. Ils ont lancé 3 missions en 2009, juste après. Et voilà. Et aussi, même en Angleterre, ils ont la Navy, ils ont fait une mission aussi spéciale. Et donc, en fait, la conséquence de tout ça, elle n'est pas visible tout de suite, parce que ça, c'est à partir de 2008, ils s'organisent, en fait, l'ONU et les différentes forces internationales s'organisent. Et c'est à partir de 2012 où on voit une forte baisse des actes de piraterie. Et jusqu'à aujourd'hui où il n'y en a pratiquement plus aucun qui réussisse. Aucune attaque ne réussit pratiquement. Alors qu'il y avait un pic en 2010-2011.
Dans cette zone-là.
Oui. Ouais. Et on peut voir en regardant que ça se décale vers l'Afrique de l'Ouest. Et que la piraterie, elle augmente plus là-bas. Mais qu'en tout cas, dans la zone... du golfe d'Aden et des attaques pirates de Somaliens, il n'y en a presque plus.
Mais du coup, tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre par les différents pays qui avaient des intérêts commerciaux là-bas, en fait, ça s'applique que aux côtes somaliennes ou est-ce que c'est les mêmes dispositifs qui sont appliqués aussi aux côtes du Nigeria
Non, c'est que spécifiquement aux côtes somaliennes.
Mais on peut supposer qu'ils vont faire la même chose.
Oui.
Sans doute.
Oui. Ça tend à s'élargir, c'est comme disait... la semaine dernière, c'est fait aussi pour s'élargir. Et...
En fait, les résolutions de l'ONU, à chaque fois, ils les votent pour des situations d'urgence sur un périmètre précis. Mmh. Elles sont censées avoir une durée limitée dans le temps, mais évidemment, elles perdurent. Mais en fait, autant de situations d'urgence qu'ils vont proclamer eux, parce qu'après, c'est vrai que faut voir que ces situations d'urgence, elles sont proclamées par les États dominants. Mmh. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, qu'il y a vraiment urgence? En tout cas, urgence pour qui? Pourquoi? Bon, urgence pour le commerce, pour les riches. Et donc, ces situations d'urgence, bah, à chaque fois, elles donnent lieu à des réunions du Conseil de sécurité, des réunions de crise. Et c'est là où ils votent ces résolutions. Et elles s'appliquent seulement à cette situation-là. Parce que dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a plein de pays qui voient bien le danger qu'il y a pour eux. Par exemple, de voter une résolution qui autorise les interventions sur Terre. Si ce n'est pas spécifié dans quel pays, il y a plein de pays qui se disent « Bah merde, ils vont venir tous intervenir, nous aussi, dès qu'il y aura un problème. » Et donc, voilà. Et après, c'est des espèces de petits enjeux, de petites batailles diplomatiques. Quoi.
Et au niveau des dispositifs judiciaires, aujourd'hui, alors
Je me dis, c'est peut-être parlant de dire comment ça se passe pour un Somalien qui se fait arrêter par... là, on va prendre les militaires français, puisqu'on parle des Somaliens qui ont été emmenés en France. Comment ça se passe concrètement? Donc, on va prendre un bateau, c'est le Caredas, le premier bateau qui a donné lieu à ce que des Somaliens soient ramenés, kidnappés et ramenés ici. Donc, petit bateau de plaisance qui est pris d'assaut par une équipe de 6 Somaliens. C'était en 2008, et donc ils demandent une rançon. Alors à chaque fois, il faut savoir que bon, c'est des trucs, ça se passe selon les témoignages des otages, plutôt tranquille à bord et tout. Les gens, juste, ils veulent de l'argent en échange du bateau et de l'équipage, mais du coup, ils font hyper attention au bateau et à l'équipage, voilà, on va dire même comme ça, trivialement. Et donc. Ce bateau, pendant 2 semaines, il est entouré par des bateaux des marines étrangères, de la marine française, des coalitions armées. Et l'assaut est donné une nuit. L'assaut, ça veut dire que donc des mecs, des espèces de commandos arrivent, débarquent, tirent dans le tas, ils tuent direct 2 pirates, enfin ils tuent direct 2 Somaliens. Ils montent sur le bateau et les autres, ils les capturent sans faire attention à savoir d'ailleurs si c'est vraiment des pirates ou si c'est pas des pirates. Et en l'occurrence, sur ce bateau, il y avait un gars qui était en difficulté en mer, qui avait été repêché. Et les otages, tout de suite, ont dit non, mais lui, c'est pas un pirate, mais tant pis. Comme c'était un pêcheur, il est compté avec les autres comme pirates. Donc on les capture, on les menotte dans le dos, on leur met un truc sur la tête. Et après, ils passent 10 jours de garde à vue sur différents bateaux de la marine, trimballés entre plusieurs ponts de bateaux, et puis à Djibouti, avec des menaces terribles, sachant qu'en plus, ils ont vu 2 de leurs potes qui se sont fait buter direct à bout portant. Et on les menace de représailles sur leur famille et de représailles sur eux-mêmes. Au bout de 10 jours, on les met dans un avion et direction la France, Villa Coublay. Et là, ils sont présentés à un juge d'instruction et ils sont directement mis en taule. Et là, ça dure pendant 4 ans et demi avant qu'il y ait un procès. Et c'est parlant aussi pour expliquer ce qui se passe au niveau juridique, parce que souvent, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais 10 jours de garde à vue, c'est pas possible. » Et bah si, parce que là-bas, en fait, comme en Somalie, tout est possible, hein, comme ça a été décrété situation d'urgence, tout passe, tout et n'importe quoi passe justement sur l'urgence. Et très vite, ce qu'ils se sont dit, oui, c'est vrai que ça va peut-être nous poser des problèmes si à chaque fois on garde les gens 10 jours, 15 jours, comme ça, on garde à vue, c'est un peu chiant, hein, on est quand même une démocratie, il faut donner le change. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en France, en tout cas, en 2011, ils ont voté une loi qui permet que quand on est capturé en mer pour acte de piraterie ou autre d'ailleurs, on puisse faire 45 jours de garde à vue, renouvelés à distance tous les 5 jours par téléphone. Donc on va dire que la répression juridique, c'est un petit peu sur ce schéma-là. C'est qu'en fait, c'est agir d'abord. Et puis après, voir que c'est hors loi, convention internationale, et se dire que comme c'est compliqué, c'est pas grave, on fait vite voter une loi ou une résolution qui va faire que tout ça va re-rentrer dans le cadre de la loi. Et sinon, ils sont aussi aperçus que c'était quand même compliqué, vu l'ampleur quand même de la piraterie dans cette région. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 1000 pirates qui étaient emprisonnés à travers le monde. C'était hyper compliqué à chaque fois d'avoir cette démarche de ramener les gens dans les pays, soit les pays des militaires qui sont intervenus, soit les pays qui correspondent au pavillon du bateau qui a été pris en otage. Du coup, a commencé toute une politique initiée d'ailleurs par Jack Lang. C'est Jack Lang qui était le rapporteur spécial pour l'ONU pour lutter contre la piraterie, de construction d'appareils juridiques, de tribunaux et de prisons dans cette région du monde. Alors en Somalie, mais aussi au Kenya, aux Seychelles, l'île Maurice. Maintenant, la politique, c'est un peu de les pirates capturés là-bas, c'est de les ramener dans ces pays voisins parce que c'est moins compliqué à gérer que de les ramener aux États-Unis ou en Europe. Et sinon, pour parler concrètement des procès, c'est compliqué. Nous, il y a surtout un procès dont on a envie de parler, ça serait plutôt celui du Ponant, puisque le Ponant, c'est vraiment... un bateau, c'est, je sais pas, ça symbolise la lutte des classes, quoi. C'est vraiment un bateau. Toi, jamais vous pourrez vous payer une croisière sur le Ponant. Hein. Je suis désolée, vous êtes triste de l'apprendre. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en sais.
Non, il y a plaisance, c'est plaisance. Ouais. Qu'il y a à la fois ces bateaux caricaturaux de gros bateaux de croisière comme le Ponant avec un équipage. Style la croisière s'amuse avec le capitaine, avec son uniforme, le barman, le machin. Et quand même son sous-équipage philippin, hein, qui est dans les machines, etc., et qui est aux autres tâches. Donc il y a ce style de bateau de plaisance. Et puis sinon, il y a les petits bateaux de plaisance d'aventuriers. Enfin, il y a le Caredas ou la Tanit, où la Tanit, c'était encore plus l'aventure en famille. Où là, c'est une autre forme de navigation. Voilà, donc pas bon. Tout mettre dans le même sac, mais...
Non, après, du coup, nous, on fait pas du jugement de valeur, à savoir que quand on est un Somalien, en sachant que la Somalie, c'est un pays où l'espérance de vie, c'est quand même 50 ans, les gens, c'est vraiment... Enfin, être pauvre en Somalie, ça veut dire concrètement qu'on meurt de faim, c'est pas comme être pauvre ici.
Un tiers du pays en ce qu'on appelle détresse alimentaire, il y a des millions de réfugiés un peu partout à travers le monde et dans les pays limitrophes.
Donc nous, on ne fait pas de jugement de valeur sur le fait que des pirates auraient attaqué un petit bateau de plaisance. Enfin, on se garde bien de ça parce que, en tout cas, même si on est un petit bateau de plaisance, et d'ailleurs, il y a dans différents procès, les procès des deux bateaux de plaisance, à chaque fois, les gens ont dit, si on était à leur place, on aurait fait la même chose. Si on crevait de faim, nous aussi, voilà ce qu'on voit quand on voit des blancs sur un voilier, on voit quand même un petit coffre-fort, quoi. Donc on fait pas de jugement de valeur sur les attaques, sur la nature des attaques qui sont faites, mais le Ponant, effectivement, c'est le bateau qui est un peu plus symbolique, parce que là, c'est vraiment un bateau de croisière pour très riches, puis c'est aussi le procès qu'on a le plus suivi, on est allé le plus aux audiences. Et là, c'était flagrant de voir les gens qui défilaient à la barre du côté des plaignants. Et puis de voir les mecs qui étaient dans le box, qui étaient là. Je sais pas comment dire, mais enfin, ça faisait une espèce de contraste hyper criant. Avec en plus du côté des plaignants des gens qu'en voulaient, quoi, qui eux n'acceptaient pas du tout, ou en tout cas faisaient semblant de pas accepter ce qui leur était arrivé, et qui étaient très revanchards par rapport aux Somaliens, en réclamant pour eux des peines exemplaires, en réclamant de l'argent. Bon, mais évidemment, ils peuvent pas toucher d'argent de la part des Somaliens, mais de l'État en dédommagement.
C'était presque surréaliste, en fait, même, parce que de les voir dans leur espèce de cage de verre, là, parce qu'ils étaient entourés...
Les pirates, oui.
Ouais, les pirates, et autour, c'était...
Des gens en uniforme, en attaché-caisse.
Voilà, et c'était de dire, mais en gros, pourquoi ont-ils fait ça? Enfin, ah oui, la Somalie, c'est pauvre, hein, je ne sais pas, personne ne savait rien de rien. Et du coup, c'était, moi, je trouvais ça un peu surréaliste comme situation, parce qu'ils étaient là dans leur cage.
Un gendarme derrière chaque mec, et puis tout le décorum des assises, c'est le jury populaire, le côté impressionnant des assises, le procureur en grand uniforme rouge avec hermine, etc., avec médaille et autres, et puis ça défile. C'est là où le capitaine du Ponant n'était pas obligé de rajouter une couche en venant en uniforme de capitaine, il aurait pu s'abstenir de le faire.
Et puis la volonté, vraiment la volonté de la part du procureur et de la part des parties civiles de faire un procès exemplaire. On va donner un petit exemple, comme on dit, le décorum des assises. Aux assises, en fait, au départ, quand on passe au procès aux assises, il y a plein de gens qui ont été tirés au sort comme jurés, et ils passent, et là, tu as la défense ou l'attaque, on va les appeler comme ça, qui disent s'ils veulent les garder ou pas. Et nous, quand on y allait à la première séance, on se demandait pourquoi l'attaque, enfin l'avocat général, le proc, quoi, à chaque fois qu'il voyait un mec, refuser. Et après, on a très bien compris pourquoi ils avaient intérêt, ils voulaient garder que des femmes comme jurées. C'est parce que plusieurs fois est ressorti dans le procès le fait qu'ils voulaient faire passer les pirates pour des barbares sexistes, etc. Et d'ailleurs, là-dessus... Il y avait une petite anecdote, c'est qu'à un moment, le capitaine du Ponant, là, Marchessault, là, avec son uniforme, il explique que quand les pirates sont arrivés sur le bateau, tout de suite, l'équipage du bateau se sont dit « Bon, alors là, on va protéger les femmes, parce que, hein, effectivement, je veux dire, on voit des noirs barbares arriver, tout de suite, il faut protéger les femmes blanches, hein, on va dire ça comme ça. » Et hop, ils les ont foutues en fond de cale, les femmes, avec un philippin pour les garder, parce qu'évidemment, hein, des femmes toutes seules, ça ne savait pas se débrouiller, et du vin. Et c'est tout. Et donc, au bout de 48 heures, ils sont sortis. Et là, les pirates ont été hyper furieux parce que justement, ils ont dit « Mais vous nous avez pris pour qui ? Vous pensez que parce que c'était des femmes, on les aurait maltraitées, etc. » Et voilà, ça ne s'est pas du tout produit. Mais il y a eu plusieurs anecdotes comme ça. À un moment, il y avait 3 traducteurs pour ce procès, et il y en avait, on va dire, un qui traduisait bien, ça, enfin ça se voyait, et puis 2 autres, alors moi, je parle pas somali, mais je vois bien qu'ils traduisaient pas les débats, ils traduisaient seulement quand on posait des questions aux Somaliens, mais ils traduisaient pas ce qui se passait, donc les autres, bah, quand on passe au procès, quand même, on a intérêt à savoir tout ce qui se dit, quoi. Et donc, à un moment, une traductrice, il y a un des pirates, il dit non, il fait signe qu'il veut pas d'elle. Et là, hop, on essaye de le retourner, l'avocat général essaye de retourner ça contre lui en disant que, ben voilà, il veut pas d'une traductrice femme et il veut d'un traducteur homme, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Il voulait juste quelqu'un qui lui traduisait les débats, quoi. Et après, dans ce procès, la défense, alors il y avait une défense qui était quand même, qui était solidaire, groupée avec, dans aucun procès, jamais, aucune des personnes a essayé
de charger
l'autre, en tout cas de minimiser ce qu'il a fait par rapport à ce qu'aurait fait en plus un autre. Ça, c'était quand même assez admirable. Et à un moment, la défense, ils ont essayé de parler notamment des déchets toxiques, du problème de la surpêche, de la pauvreté. Et c'est passé comme ça, c'est juste passé comme ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient en faisant intervenir Paul Moreira, un mec qui a fait un documentaire qui s'appelle Toxique Somalia, qui parle des déchets toxiques, du déversement des déchets toxiques en Somalie. Mais c'est passé comme ça. On voit, il y a une espèce de spécialiste du Quai d'Orsay, la spécialiste de la Somalie, qui est venue. Elle, quand on lui pose des questions sur les déchets toxiques ou la surpêche, elle dit « Oh, oui, moi j'ai vu Toxique Somalia, comme tout le monde, mais... »
Après, il y a eu le Tanit comme procès. Donc là, ça s'est transformé en procès de l'armée.
Autre verdict, les 3 pirates somaliens jugés à Rennes pour la prise d'otage du voilier français le Tanit dans l'océan Indien ont été condamnés à 9 ans de prison ferme chacun. Le drame s'était déroulé en 2009 et s'était achevé avec l'intervention des commandos français. 2 pirates avaient été tués ainsi que le skipper Florent Lemasson atteint accidentellement.
L'armée a tué le skipper du bateau. La femme du skipper aussi a écrit aussi un livre en décrivant bien la situation et le contexte somalien. Voilà. Alors, après les condamnations, pour tous, les condamnations ont été... c'est-à-dire qu'ils font tous au minimum 4 ans de détention provisoire.
Il y en a certains qui ont été relaxés, mais c'est ceux dont on ne pouvait pas nier le fait qu'ils n'étaient pas responsables.
Genre donc le pêcheur du Caridas, par exemple, il a quand même pris 4 ans. Le chauffeur de taxi pour le Ponant, parce que c'était une opération d'une arrestation sur terre, il a pris 4 ans au minimum. Donc... Ça veut dire 4 ans de détention avant, ça veut dire des condamnations en moyenne de 10 ans. Les derniers de la Tanit, c'est 9 ans chacun.
Oui, c'est tout le temps, c'est le procès de l'armée, mais à la fin, c'est les pirates qui mangent. Quoi.
Ça veut dire des détentions complexes. Il n'y a pas de détention facile non plus, mais des détentions rendues encore un peu plus complexes du fait de déracinement, de ne pas parler la langue, à quelques exceptions près de certains qui parlaient un peu anglais, qui se retrouvaient dans des conditions un peu en isolement avec des Corses ou des Basques ou dans des situations particulières. Ça veut dire des sorties, donc ça veut dire des problèmes psychiatriques, psychiques importants en détention et des sorties complexes où ils se retrouvent
sans papier.
Foutus dehors, sans papier, sans logement, sans argent, sans rien, donc démerdez-vous. Donc avec une communauté somalienne inexistante quasi sur Paris. Donc sans papier, donc on les refoue soit en rétention, avec l'impossibilité de les expulser, parce qu'on n'a pas envie de les envoyer en Somalie, enfin on veut pas les raccompagner en Somalie. Il n'y a pas véritablement de représentation somalienne ici en France. Donc avec tout un micmac, même pour celui qui est un des vieux du Ponant, qui avait plus de 50 ans, qui voulait rentrer en Somalie, bah pour lui ça a été la croix de la bannière pour le ramener en Somalie. Et puis les autres, c'est un peu la démerde et la galère à Paris. Ils demandent le statut de réfugiés, ils attendent des indemnités, des remboursements de l'État français. Ils sont dans des foyers, dans des structures d'accueil. Ils replongent au niveau psychique, donc quelquefois ils se retrouvent confrontés avec la psychiatrie, un nouvel enfermement, ce coup-ci psychiatrique. Ou pour ressortir de là, c'est encore une autre complexité.
Abdulkader Goulet Saïd n'a jamais choisi de vivre en France. Ce pêcheur somalien s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une histoire ubuesque. Son destin bascule le 11 avril 2008 le long des côtes somaliennes. Ce jour-là, il monte à bord d'un taxi collectif, mais à l'intérieur se trouvent des pirates qui viennent de rançonner un voilier français, le Ponant. Peu après, le taxi est stoppé par des commandos militaires français. Tous les passagers sont arrêtés et envoyés en prison en France. Abdulkader passe 4 ans derrière les barreaux avant d'être finalement acquitté en juin 2012. Ce fut une souffrance. Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne dans ce pays. Petit à petit, j'ai perdu la raison. Selon les médecins, cet enfermement pour rien a eu de graves conséquences sur sa personnalité. Son avocat le confirme.
Il va très très mal. Depuis sa détention, il est suivi par un psychiatre, il est sous traitement. C'est un pêcheur qui était vigoureux, qui était un jeune père de famille. Aujourd'hui, c'est un homme qui est handicapé. Il ne peut pas faire les actes les plus simples de la vie courante.
intina nabiya asalka baya murada ya askara over sada ya utana over jogo ya qalbiya ditanada ya haris nabiya kan rubi qoyo socodka si kana daba mara hayir sanki yir yadan madu wa qafiyo ya ma yigi wa hayi midro hayi shidan bi ada qaidan u yiri saqali fada lagu yaco ibaneri hajirada habad kan yiri sada ya baneri akani tagadini si ya bara u inta bina kasamaysan gohol dadkan lagu yamo tani ma farmaale ibn aarif ladada ya yaxiba lalita ina wili yabal tama ya hu ya akru dama'i ya peace ya hu ya akru dama'i ya peace somalayur horda yarin ba wada kan yimi yur yur somalayur horda yarin ba wada kan yimi
Des femmes dans les équipes des fois.
Ah. Bah, en tout cas, il y en a à terre qui servent pour le ravitaillement parce qu'en fait, voilà, logistiquement.
En fait, je crois qu'ils mettent à partie pas mal de gens en fait. Il y a pas mal de gens autour qui participent aux opérations, mais ça peut être de manière un messager, oui, ou une qui fait à manger, ou sur terre, ou un qui conduit la voiture qui emmène les otages. En fait, il y a plein de gens.
Juridiquement, elle sera considérée pirate. Dans un journal algérien, il y avait des marins algériens qui racontaient comment ils avaient été pris en otage. Et donc, il y en avait un qui racontait, il était hyper choqué, parce que les preneurs d'otages, c'était apparemment une famille. Alors, il y avait le mari, la femme et les enfants. Donc, dans son histoire à lui, dans ce que j'ai lu, ce qu'il gardait, donc, c'était une famille. Donc, il y avait une femme et même des enfants, une pirate. Voilà. Mais c'est la seule trahison. Voilà, et c'est ça. Pour lui, ça avait l'air d'être l'extrême humiliation de dire qu'il y avait une femme.
Boy, I'm حدونا وحتى ليس شر أذيونا وحتى ليس شر الذي من المقبور هيدا اللي أنفت قال إيجا هاري إيجا في إلا قيادة لابت إيجا هيدا حير لا هشادة والمجية هيدا دير لا بشادة النقم اللي بتير اسبه إلا الله نشاء صم الله عمش غير لا مسار وانا اللي من فرحة ديدكم الله لأن دقاقة كارك الوفك إيجا هيدا كما هاد اللي رسالة أوسيا
Le bouquin, c'est voilà, c'est un collectif. On l'a appelé Iska Château parce que voilà, on cherchait un somalien qui veut dire solidarité.
Ensemble, on est plus fort. Il paraît, ça veut dire.
Ensemble, on est plus fort. C'est marqué dans le livre. Il y a la définition. Et donc cette idée-là, oui, c'est de dégager un peu de fric pour envoyer des mandats à ceux qui restent en tôle, et puis voilà, bah, de voir ce qu'on peut faire quand ils sortent, et puis parce qu'on commence à voir. On a vu en premier ceux qui sont sortis, ceux qui ont été acquittés. On voit ceux qui commencent à avoir fini de purger leur peine en France. Et puis, voilà, c'est essayer d'envoyer quelques mandats. On a commencé. Et puis, voilà, quoi. Et puis, de suivre le prochain procès pour le Tribal 4. Ça sera peut-être dans un an et demi, voilà, à Paris.
Les sorties cinéma ?
Et sinon, oui, dernière. Donc, une super production hollywoodienne qui va s'appeler Captain Phillips avec Tom Hanks, tiré de fait réel, du Maersk, Alabama. C'est un tanker donc, qui a été pris à l'abordage. L'équipage aurait été libéré ou a été protégé ou libéré, enfin on ne sait trop rien. Enfin, en tout cas, les pirates se sont retrouvés à la fin avec le capitaine Phillips, avec le capitaine du bateau. Puis l'armée américaine a fait une intervention militaire, donc a libéré le capitaine, a tué l'ensemble des pirates, ou présumés tels, sur le bateau. Ils ont embarqué quand même un jeune mineur, ils l'ont envoyé aux États-Unis, et ils n'avaient pas eu de procès en piraterie depuis le 18e siècle aux États-Unis, donc ils l'ont condamné à plus de 30 ans, quasi à perpète. Ça a été un procès entièrement à charge contre ce jeune. On verra ce que ça donne. Et puis, sinon, voilà, il y a un vague projet, Jack Perrin, mais on n'en sait pas beaucoup plus, d'un film en France autour de l'affaire du Ponant. Si c'est autour du livre qu'a fait le commandant Marchessault, ça peut être un peu la catastrophe. Et puis, on n'en sait trop rien. Et puis, voilà, en info...
Bah c'est vrai, ouais, c'est tout. Nous, on va juste essayer de se servir de ça pour donner un peu la contre-information, quoi, et montrer que ce qui se passe là-bas, ça résume un petit peu ce qui se passe dans le monde, quoi. Enfin, c'est une espèce de... C'est représentatif de la lutte des classes, quoi, et de ce qu'on peut penser, justement, de la justice. La justice, c'est vraiment... C'est juste l'expression de la force, quoi. On le voit bien là-bas en Somalie. Et nous, on a envie de faire ressortir ça.
On ne défend pas plus la justice somalienne que... Voilà, non plus. Mais le fait qu'ils aient déterritorialisé, etc., voilà, c'est... on est encore un peu plus dans l'absurdité du système judiciaire.
Parce que l'autre jour, là, vous parliez d'une espèce de faux équilibre. C'est-à-dire, il y a d'un côté une lutte contre la piraterie où vraiment toutes les puissances ont vraiment mis des moyens pour lutter contre la piraterie. Et de l'autre côté, il y a quand même une petite circulaire qui est passée dans l'ONU par rapport aux déchets toxiques.
Oui, parce que du coup, l'ONU, ils font pas que pondre des résolutions comme ça, hyper guerrières. Comme c'est un truc énorme qui... Enfin, je sais pas exactement ce que c'est l'ONU. Hein, j'ai découvert ça. Un truc énorme qui chapeaute le monde où il y a un peu tout. Et qu'ils sont censés représenter la démocratie, être juste, enfin, le bien, quoi. C'est l'axe du bien, l'ONU. Il y a aussi un pôle ONU environnement. Et donc, ce pôle ONU environnement, ils ont pondu un rapport sur les déchets toxiques en Somalie. Donc le déversement des déchets toxiques, il est avéré aussi par l'ONU, qui a fait un rapport très bien qui explique tout ce qu'explique en fait Paul Moreira, ou le peu qu'on peut dire dans le livre, à savoir que les côtes somaliennes servent de déversoir déchets radioactifs, plomb, etc. Mais ce rapport-là, par contre... Voilà, il reste très confidentiel, il donne lieu à aucune résolution contraignante pour quelque pays que ce soit, parce que celui-là, il va pas dans le sens qui intéresse. Alors que les résolutions guerrières, d'occupation militaire de la zone, et puis les résolutions aussi qui vont vers un renforcement de la justice, de la prison, et des prisons, bah, celles-ci, elles intéressent. Et ça profite surtout... les pays riches qui peuvent asseoir leur occupation de cette zone du monde. Ça profite à tous ceux qui font de l'armement, parce que là-bas, comme on disait tout à l'heure, il y a des tas d'armes qui sont testées. Les canons à son, les lasers aveuglants, les je sais pas quoi qui font vomir, les drones sous-marins, enfin tous les drones en tout genre sont expérimentés là-bas sans que personne y trouve rien à redire.
À quelques encablures de la côte somalienne, deux navires. Ce sont les dernières prises des pirates. La région côtière de Las Corey est une de leurs bases arrières. Ici, lorsque les chefs traditionnels ont l'occasion de s'exprimer, ils défendent les activités des pirates. Selon eux, il n'y a pas que du business derrière les prises d'otages.
Ces jeunes ne sont pas des pirates. Ils protègent nos bateaux de pêche. Ils doivent être récompensés. Ils kidnappent ces bateaux parce que ces bateaux volent nos ressources et déversent des déchets toxiques. Ces jeunes doivent continuer à faire leur travail pour le bien du pays.
Même son de cloche de la part du président du Puntland. Lors d'une conférence de presse, le chef de cette région semi-autonome de Somalie rappelle que toutes les dimensions du problème doivent être prises en compte.
Comme chacun le sait, la cause principale de la piraterie, c'est la pêche illégale, et le problème existe toujours. Donc, toute action visant à éliminer la piraterie doit comprendre un arrêt de la pêche illégale pratiquée par les chalutiers étrangers.
Depuis plusieurs années, les Nations Unies tiraient la sonnette d'alarme. Selon la FAO, les pêcheurs somaliens perdent chaque année 300 millions de dollars en raison de la surexploitation des eaux territoriales. Depuis les années 90, le pays, plongé dans la guerre civile, sert également de poubelle à nombre d'entreprises occidentales qui déversent dans l'impunité leurs déchets toxiques, y compris radioactifs. À l'origine, les pêcheurs somaliens abordaient les navires étrangers pour percevoir une taxe compensatoire. Avec le temps, ils ont fini par trouver cette activité plus lucrative que la pêche.
Ce matin, au lever du soleil, à 300 km au nord des Seychelles, à plus de 1000 km des côtes somaliennes, deux thoniers français rentraient vers Mahé, la capitale des Seychelles, après plusieurs semaines en mer à la pêche. Ils ont détecté deux petites embarcations qui se dirigeaient vers eux. Les thoniers ont pris un cap de fuite pour s'en éloigner. C'était une menace, ça ressemble à des pirates. Et les deux embarcations ont poursuivi, ont pris en chasse les thoniers, nécessitant l'intervention des fusiliers marins et des commandos de la Marine nationale qui sont embarqués à bord de ces deux thoniers. Les fusiliers marins, les commandos ont appliqué leur procédure et dans un premier temps, ils ont montré qu'ils étaient présents à bord en tirant en direction des pirates. Là, cette fois-ci, ça devient trop gros pour les pirates. Ils rompent l'attaque et ils s'en vont. Il n'y a pas de blessés côté français, ni parmi les pêcheurs, ni parmi les militaires. Les deux thoniers font route toujours vers les Seychelles. Le dispositif militaire sur les thoniers, il a deux buts. Surveiller en permanence, être vigilant et lorsqu'une menace apparaît, réagir immédiatement. Actuellement, il y a une soixantaine de militaires qui sont impliqués des titres divers dans la protection de bateaux vulnérables. Les bateaux vulnérables, c'est des bateaux qui sont lents, qui sont bas sur l'eau et donc qui peuvent être la proie des pirates. Et donc ces bateaux vulnérables, on leur accorde ce type de protection quand ce sont des bateaux français, quand ce sont des bateaux qui se livrent à une activité économique et quand cette activité économique, donc qui représente des emplois français, ne peut être ni reportée dans le temps ni déplacée dans l'espace. C'est le cas des pêcheurs, mais c'est le cas d'autres types d'activités comme les navires câbliers par exemple.
Ce terme de pirate, effectivement, qui est beaucoup plus utilisé par l'extérieur, eux, ils utilisent quand même un mot commun, parce qu'à peu près sur 10 millions d'habitants en Somalie, à peu près, ça concerne à peu près 5000, enfin, ça concernait dans les années 2008, 2009, 2010, à peu près 5000 personnes. Après, il y a ce terme Burkad Bared, qui veut dire brigand des mers, et qui est communément utilisé, et qui est un vieux terme utilisé pour ce style d'acte, etc. Il y a aussi une popularité assez importante en Somalie de ce type d'acte. On voit ça dans des dessins, dans des revues, dans des dessins, dans des caricatures de presse, ou dans des choses comme ça. C'est quelque chose qui revient, ailleurs, en disant, voilà, c'est qui les vrais pirates? C'est ceux qui utilisent des moyens illégaux, comme déverser les déchets toxiques, etc. Ceux qui sont véritablement plus armés que nous, comme les flottes internationales, etc.
Bah, après, ça, c'est un truc qui est repris par des pirates depuis longtemps, en faisant des petites recherches sur le bouquin. Pendant l'Antiquité, il y avait déjà des gens qui étaient jugés en piraterie, et qui montrait que c'était une situation retournée. Et puis il y a ce célèbre, la phrase là, de ce pirate célèbre, je crois que c'est Bellamy qui dit c'est qui les vrais pirates? Enfin, vous voulez les pauvres sous le couvert de la loi, enfin protégés par la loi, et puis nous on vole les riches armés de notre seul courage. Et c'est un peu cette phrase, je trouve qu'elle résume vachement bien ce qui se passe là-bas.
C'est sur cette phrase de Bellamy, célèbre pirate du XVIIIe siècle, que l'on se quitte maintenant. Merci pour la présentation de ce livre, Frère de la Côte, sorti aux éditions de l'Insomniac et qui a été présenté à Lille à la bouquinerie occupée L'Insoumise. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre blog zapzalap.wordpress.com. Allez, salut et à la semaine prochaine. Still stay true. Yeah, what do Africa do? This that submarine music, baby. Why ask? Abasco, jungle, sur le pays, oh, you're so busy. Let's take it to sea, baby. Go out, but then you can get a more gala. Tell me a little bit of gay with it. Go out, but then you can get a more gala. Tell me a little bit of gay.
Ni masai basa kuna meli imetekwa na pirates crew ilipepetwa na hoda ni ndo Idris hata kwa ndege au wanateki mapilots hata maju wako kila mahali nilots simu gatishu tu issues ziko kwa high court machuma zina smuggliwa ndani ya airport my rifle zimefungwa ndani ya nylon ukweli wa maneno cheki ndani ya Iris jamini hata jamani watasema shaisha manake kila kona wameleta ma crisis wako ndani ya boat rush ya maji ice. Kapeteka kushikisha usiku vinaisi. Walipanda sombili satano wamebaki 195 walipote ya wapi. Kahiyo basi soli basi jibu risasi.
Go up, but it's me within a mogala. Tell me you know that game.
call it righteous. Raving nights with the black ship, y'all might just let loose. Make use of paid dues, but the same never change. So still stay true, scared of what you can't speak. Speak on what you can be. Space suit shoes, Mogadishu, what it do? Nyanchela, wabona abofana bampela. Batwana banskela, yebo mina kufela. Uringjo, skebengu nabo paskela. Mina inza, izo izo buza stela. Basha pileru, labo to kopi de musa. Kulunkulu, wabona wabona kusa. Exemi bro, ek ni pra Afrikaans. But mi hompo nyoma, di misi pondi bra. Upi paso, chrome force on the mond. Tell me what it do when you see what I can do.
Bro, apa de ni mati na mo gala. Tell me a no dar gay with it dara. Bro, apa de ni mati na mo gala. Tell me a no dar gay with it dara.
Tosu shayo, dadin ka ukesha. Kaja otaro, mula dorbina. Kona dorana, kuma kantaro. Dula dila akhere, bakan mula dhele. Dala kuna nafe male malo tarika. أبي تكبر واحد اللي دارتي يشوي واحد داتك وقاضي أنا دارت كوضي معا كنت أنتي حالي وكانوا جدا روما مالا داف داف إيو هيلا دارو لما دوبا دارا ما غدو عذانا هو تشكو وإدو بحية دارا بانجيرا مسوالي داعا دا دوحي ما دهيري دارا داهيرا مراهن من أجوة دو حتى داخيرا أوه دا إختانا كوا أوقاشونا وادا دا سيدا تويرو غارو داغ دا أندماني من أدان كو نصير
برعب بغيرني مدينة مو غارو.